L'Arche de Noé, c'est une des premières histoires qu'on apprend aux enfants. Et ça rend bien service aux parents, d'ailleurs, parce que la morale qu'on en tire habituellement, c'est qu'il faut être bien sage. Et que si on fait des bêtises, on est puni. Mais avouez quand même que la théologie de l'histoire est très discutable. C'est-à-dire cette idée d'un Dieu qui vient punir, d'un Dieu qui détruit la création, qui tue tout le monde. Est-ce vraiment l'image du Dieu que l'on veut transmettre à nos enfants? Donc j'en viens à regretter qu'on enseigne cette histoire aux enfants, parce que ça n'est absolument pas la théologie qu'on enseigne. Et moi, je ne crois pas dans un Dieu qui punit et qui vient détruire ceux qui ne lui obéissent pas. Je crois au contraire dans un Dieu d'amour, de pardon, de tendresse, de gentillesse. Et donc je ne vois pas cette histoire du tout comme étant possible d'un point de vue évangélique. Alors bon, c'est vrai que néanmoins c'est pas entièrement faux quand même. C'est vrai que la haine attire la haine, la haine attire la violence, le mal finit par nous détruire aussi, et même si ce n'y a pas de punition de Dieu, je suis d'accord que par-delà le pardon de Dieu, le bien et le mal que nous faisons peut avoir des conséquences, et c'est vrai que si on fait le mal, ça peut faire beaucoup de mal pour les autres et pour nous. Mais de dire que ce soit Dieu qui détruit, je ne le comprends pas. Alors comment justifier Dieu dans cette histoire? Ou peut-on justifier Dieu? Est-ce qu'on peut avoir une autre lecture que cette lecture enfantine? Eh bien, c'est un peu le défi que nous nous sommes donné avec Florence aujourd'hui. Et nous voudrions partager avec vous, sous une forme de conversation en quelque sorte, nos réactions, nos réflexions sur cette histoire de Noé.
Alors oui, c'est vrai que cette lecture enfantine ne me convient pas du tout non plus. Même si j'irai peut-être pas aussi vite, parce que les histoires qu'on apprend quand on est enfant nous aident à nous construire, et probablement que dans mon parcours, l'histoire du déluge a été assez importante. Mais tout de même, il y a bien un âge où il faut devenir adulte et essayer d'autres explications. Eh bien, il y en a plusieurs, et on va essayer de vous en donner plusieurs. Mais je voudrais partir d'un constat, finalement très humain. C'est que lorsque quelque chose de mal se passe, même si on sait que c'est de notre faute, on dit toujours que c'est la faute de l'autre. Les enfants le font, et les adultes aussi. Écoutez nos hommes politiques, quand c'est bien ce qui arrive, c'est grâce à eux, mais quand c'est mal, c'est toujours grâce à ceux qui ont précédé et qui n'ont pas fait assez bien, ou grâce à ceux qui les empêchent à cause de ceux qui les empêchent de faire autre chose. Donc finalement, quand ça ne va pas, on accuse toujours les autres. Et les hommes ont toujours remis leur faute sur Dieu, à mon avis. Et puis en disant, eh bien finalement, ça s'est passé, c'est Dieu. Alors à partir de ce constat, certains ont rejeté Dieu. Eh bien, je voudrais faire une autre lecture. Parce que si on fait attention au texte qui nous dit qu'il y a de la violence, qu'il y a du mal, qu'il y a de la perversion, en fait, le monde dans lequel vit Noé est un monde en quelque sorte où la haine, l'horreur règne, et finalement c'est un monde qui va à la catastrophe. Un monde où la violence et la perversion fait loi. Dans ce monde-là, tous les justes sont écrasés. Et ce monde-là, eh bien, il est voué à s'auto-détruire. Alors finalement, je pose la question, je ne suis pas sûre que ce soit la seule explication, mais tout de même, en protégeant Noé, en le mettant dans son arche, en protégeant Noé et sa descendance, est-ce que Dieu n'aurait pas sauvé l'humanité? Parce que cela se dit aussi, c'est un proverbe juif qui fonctionne dans un sens comme dans l'autre, lorsqu'on sauve un homme, on sauve l'humanité. Est-ce que Dieu, en sauvant ce juste qu'est Noé, eh bien, ne le sauve-t-il pas, et ne sauve-t-il pas l'humanité qui, probablement, aurait complètement disparu, englouti, peut-être pas par le déluge, mais englouti par la haine et la violence, si Dieu n'était pas intervenu?
C'est possible, et j'ai une autre idée pour compléter ça peut-être, pour décharger Dieu de la responsabilité. C'est de dire qu'en fait, Dieu n'a empêché personne de construire une arche. Donc Noé a construit son arche, et les autres, ils auraient pu se poser des questions et se dire, tiens, pourquoi il construit une arche? Et lui demander pourquoi il le fait. Et s'ils avaient été intelligents, ils auraient aussi construit des arches et ils auraient été aussi sauvés. Autrement dit, c'est vraiment de la faute des hommes qui sont morts parce qu'ils ne se sont pas posés de questions. Ce qui nous rappelle une autre petite morale, donc on reste dans la morale, mais c'est un peu plus élaboré, que de dire que la seule faute grave, c'est de ne pas se remettre en cause et de ne pas se poser de questions. Et quand on ne se pose pas de questions, effectivement, on risque d'aller droit dans le mur, comme on dit. Donc voilà, ça peut être une hypothèse, en tout cas c'est celle qui m'avait satisfait quand j'étais enfant, donc je suis heureux de vous la livrer.
Alors on peut chercher des explications à ce texte à partir d'une lecture relativement littérale, comme on l'a fait, c'est-à-dire en s'intéressant au texte, mais aussi on peut essayer de s'élever, comme l'Église essaye depuis des millénaires de le faire, en faisant ce qu'on appelle une lecture allégorique. Alors l'Église a vu dans cette arche la représentation justement de l'Église. L'arche, c'est le lieu où ceux qui se réfugient dans l'arche, c'est-à-dire les membres de l'Église, eh bien, en quelque sorte, seront sauvés. Et puis, tant pis pour les autres. Eh bien, cette explication ne me satisfait pas du tout, même si j'aime bien parfois les allégories. Ça ne me satisfait pas parce que ça donne une image de l'Église où il y aurait en quelque sorte des élus qui sont appelés dans l'arche et puis les autres qui seraient appelés à se noyer dans le déluge qu'est notre monde ou dans le déluge qu'est l'après-monde, je ne sais pas lequel exactement. En tout cas, ça ne me satisfait pas parce que pour moi, l'Église est un lieu ouvert où toutes et tous sont accueillis. Avec nos défauts, avec nos qualités, nous sommes accueillis. Et puis, eh bien, évidemment, on est prêt à affronter les tempêtes du monde. Et ces tempêtes, eh bien, tout le monde, y compris dans la tempête, peut rejoindre l'arche. Alors, je ne suis pas très contente avec cette histoire d'arche. Mais si j'en fais une lecture un peu plus personnelle, j'aime bien l'arche. L'arche, pour moi, en quelque sorte, c'est l'outil que Dieu me donne pour moi, pour me protéger du monde et ses tempêtes. Parce que de manière personnelle aussi, parfois nous sommes assaillis, même souvent. Nous sommes assaillis par le doute, par la souffrance. Nous pouvons être assaillis aussi par l'indifférence que nous avons vis-à-vis du monde et des autres. Eh bien, nous avons cette arche. Si nous nous réfugions dans l'arche, c'est-à-dire dans la proximité de Dieu, dans la foi, eh bien oui, nous pouvons affronter toutes les tempêtes.
Donc tout ça est pas mal, mais il n'empêche que reste le problème de la responsabilité de Dieu. Ce Dieu qui finalement est quand même montré là comme détruisant l'humanité. Et j'avoue que je ne peux pas passer par-dessus. Ça reste pour moi absolument inacceptable. Imaginez quand même la violence effroyable de l'affaire, les enfants noyés par ce déluge, les souffrances épouvantables que cela suppose. Et puis, c'est tout à fait injuste, même pour les animaux qui sont tous aussi détruits. Et donc, non, c'est décidément pour moi absolument insupportable, cette idée du Dieu qui punit, qui détruit. Je crois que c'est une sorte de théologie archaïque. Et que, par conséquent, ma théologie à moi, ça n'est pas celle de l'Ancien Testament, c'est celle du Nouveau Testament. Et ça n'est pas celle d'un Dieu qui détruit l'humanité, mais c'est celle d'un Dieu de grâce, de pardon et de bonté. Donc l'Ancien Testament, lisez-le pour votre culture générale, mais n'en faites pas l'objet de votre foi, parce que sinon, vous n'aurez qu'un Dieu de violence, de brutalité, de destruction, et ça n'est pas possible, autrement dit. Mais bon, néanmoins, il faut se méfier avant de jeter trop vite aux orties les textes de l'Ancien Testament, parce que parfois, ils sont quand même moins bêtes que ce que l'on pense, et peut-être qu'il y a une solution pour sauver le texte. Alors, j'en ai une un peu plus subtile que celle que nous vous avons servie tout à l'heure. Effectivement, je vous l'ai dit, la lecture littérale est impossible. Donc il ne faut pas le lire comme une histoire vraie, comme une histoire historique, mais d'une façon plus allégorique, comme une fable, une comparaison par rapport à une expérience humaine propre. Et ça, je m'en suis aperçu parce qu'il y a un mot curieux dans le texte, qui est souvent d'ailleurs pas traduit comme ça, parce que tellement c'est curieux. Au début, on nous dit « Noé était sauvé parce qu'il était parfait ». Parfait. Alors moi, je pose la question, est-ce que Noé était parfait ? Il ne le sera pas tant que ça, puisqu'il fera même d'une grosse erreur à la fin, il va s'enivrer d'une façon épouvantable. Et puis surtout, personne n'est parfait. Et donc si la théologie, c'est de dire « tous ceux qui ne sont pas parfaits seront détruits », il ne restera pas grand monde dans l'humanité. Ça prouve bien que le texte en lui-même est absolument absurde si on le lit mot à mot. Et finalement, il faut donc comprendre autrement et se dire, il y a là dans le monde du parfait et du non parfait. Mais finalement, comme en moi, c'est-à-dire qu'en moi aussi, il y a du bon et il y a aussi du moins bon. Il y a des choses qui sont belles et qui sont bonnes, de l'ordre de l'amour, du pardon, du service, de l'écoute de l'autre et de l'accueil. Mais il y a aussi en moi beaucoup d'injustices et d'horreurs qui sont dénoncées par le texte. Il y a aussi en moi de la violence, de l'égoïsme, de la jalousie, des attachements dans ce monde qui sont tout à fait déplacés. Et donc il y a en chacun de nous, il y a du Noé et du pas Noé. Et du coup, l'idée que Dieu détruise le mal, eh bien, ça n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire que Dieu, eh bien, il prend le bien qu'il y a en chacun de nous, et ça, il le garde dans son arche. Et le mauvais, il le détruit. C'est-à-dire qu'il le jette, il l'oublie, il le jette à la poubelle. Et cette arche, c'est pour moi un peu l'image, je dirais, de ce que Dieu sauvegarde. Si vous voulez, pour parler d'une façon un peu moderne, je dirais, vous sauvegardez vos données sur votre ordinateur, mais vous sauvegardez que ce qui vaut quelque chose. Tous les spams que vous recevez dans votre messagerie, vous ne vous dites pas, ah, ça, il faut que je les garde parce que peut-être que dans 10 ans, j'aurai envie de les regarder. Eh bien non, les spams à la poubelle, et tout ce qui ne vaut rien dans votre vie, Dieu le jette, il s'en débarrasse, il l'oublie, et il le jette dans les grandes eaux, il le balance à la flotte. Par contre, il garde dans son arche, qui est comme la sauvegarde de Dieu, la sauvegarde éternelle de Dieu, le cloud de Dieu, le nuage de Dieu, et là Dieu sauvegarde le meilleur. Et ça veut dire que dans chaque vie, eh bien Dieu ne garde que le meilleur. Et de chaque existence, Dieu ne se souvient que ce qui est de l'ordre du bon, du juste, de la tendresse, de l'amitié et de l'amour. Et d'ailleurs, on l'entend aussi parce que les 8 personnes qui sont sauvées, c'est donc Noé, ses 3 garçons et toutes leurs épouses, ça fait 8, ça veut dire que chaque fois sont sauvegardées les qualités particulières et leur fécondité, je dirais, c'est-à-dire ce à quoi ça donne naissance. Noé... Le Noé qui est en nous, Noé, on le dit dans le texte, ça veut dire, c'est un homme juste qui marche avec Dieu. Donc voilà ce qui est sauvegardé en nous. Tout ce qui en nous est de l'ordre de la justice, ça c'est sauvé. Et tout ce qui en nous marche avec Dieu, eh bien ça c'est sauvé. Alors on marche comme on peut avec Dieu et parfois on boite un peu, on marche à cloche-pied, mais on marche avec Dieu. C'est-à-dire Dieu sauve en nous la justice et la foi en quelque sorte. Le premier fils de Noé, c'est Shem, Sem. Sem, ça veut dire le nom de Dieu, le nom divin. Et donc voilà la deuxième chose que Dieu sauve en nous, c'est tout le divin qui est en nous. Parce qu'en chaque être humain, il y a du Dieu, il y a du divin, il y a du spirituel. Et ça, c'est sauvegardé dans l'arche éternelle de Dieu. Cam, ça veut dire en hébreu la chaleur. Et c'est une autre chose peut-être que Dieu sauvegarde, c'est l'enthousiasme, les émotions. La vie, autrement dit. Et ça aussi, c'est quelque chose que Dieu aime. Et donc, Dieu va garder cela. Et enfin, Japhet, ça veut dire l'ouverture. Alors ça me plaît beaucoup également. L'ouverture, c'est l'ouverture à l'autre. C'est la tolérance, peut-être, l'accueil. Mais c'est plus que cela, c'est aussi l'amour. Parce que l'amour, c'est une ouverture sur l'autre qui permet à la fois de donner et de recevoir. Et donc voilà ce que Dieu sauve dans l'humanité, c'est-à-dire en nous. Il sauve la justice, il sauve la marche avec Dieu, il sauve ce qui est divin et spirituel en nous, il sauve l'enthousiasme, la chaleur de la vie, et il sauve l'ouverture et l'amour de l'autre. Quant au reste, eh bien ça part dans les grandes eaux. Et cette image des grandes eaux, excusez-moi, moi je ne suis pas très poète de nature, donc les images qui me viennent à l'esprit ne sont pas très poétiques, mais ça me fait penser à la chasse d'eau, si vous voulez. Et donc c'est ça le déluge, c'est la chasse d'eau. Tout ce qui ne vaut rien, chasse d'eau, terminé, vous envoyez ça dans les égouts, vous ne le gardez pas. Et là c'est une excellente nouvelle, s'il fallait que je garde depuis ma naissance tous mes excréments depuis mes couches culottes du premier âge, vous imaginez, ça embêterait le monde, pour ne pas dire autre chose. Eh bien, chasse d'eau. Et Dieu, il est comme ça. Tout ce qui ne vaut rien, chasse d'eau. On s'en débarrasse et on ne garde que le meilleur. Alors merci, oui, merci à Dieu, non seulement de ne garder de nous que le meilleur, et de nous permettre de, justement de nous considérer et de construire notre image, non pas sur le moins bon de nous-mêmes, mais sur le meilleur de nous-mêmes. Autrement dit, qui vous êtes, vous ? Eh bien, vous êtes Noé, vous êtes Sem, Cam et Japhet. Et Madame Noé, Madame Sem, Madame Cam, Madame Japhet, pour repeupler en vous, je dirais, une humanité nouvelle qui est regardée du côté du positif, du côté de l'amour, de la tendresse, de l'ouverture, de la chaleur, de la vie et du divin, et pour repeupler le monde et pour créer un monde nouveau qui soit un monde comme Dieu veut, c'est-à-dire le monde du royaume de Dieu.
Oui, mais c'est vrai, je suis bien d'accord, mais c'est vrai que la violence de ce texte quand même me revient à la figure toujours et encore. Et parce que c'est vrai que c'est un texte assez épouvantable. Mais ce texte, d'ailleurs, il est tellement épouvantable qu'en réalité, eh bien, les auteurs bibliques l'ont trouvé tout à fait ailleurs. C'est un texte qui date de 2500 ans avant Jésus-Christ, celui du déluge que l'on trouve dans de nombreuses littératures du Proche-Orient ancien, particulièrement dans cette épopée de Gilgamesh qui va être le best-seller pendant plus de 2000 ans du Proche-Orient ancien. Voilà. Alors, est-ce que la Bible nous raconte exactement la même chose que l'histoire de ces dieux versatiles, de ces dieux capricieux, comme il y a dans ces nombreuses épopées du Proche-Orient ancien, où elle veut nous dire autre chose ? Eh bien, en réalité, et c'est là la force du texte biblique, il se sert d'un matériel qui existe, comme ça, ça parle aux gens, ça, même si ça nous parle moins aujourd'hui, ça leur parlait, cette histoire du déluge, tout le monde la connaissait, mais ils s'en servent et ils la subvertissent complètement. Le texte biblique, il a cette force de subversion, parce que oui, c'est la même histoire, mais non, pas tout à fait. D'abord, comme l'a dit Louis, c'est un mythe, je veux dire, c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire vraie. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu de déluge et il y a suffisamment de catastrophes climatiques où il y a eu peut-être eu des déluges qui ont été épouvantables et qui ont fait écrire ces histoires. Mais en tout cas, dans cette histoire du déluge, c'est un mythe. Mais c'est un mythe et un mythe nous dit des choses essentielles. Et là, eh bien, on se sert du mythe de Gilgamesh ou d'autres pour nous dire tout à fait autre chose. Parce que quels sont ces dieux anciens, archaïques ? Eh bien, ils sont profondément différents du Dieu qui se présente déjà dans l'Ancien Testament et qui s'incarnera en Jésus-Christ. En fait, les différences se font dès le début. Les dieux sont capricieux, ils en ont marre de ces bons hommes qui crient trop fort, donc on va les noyer et puis comme ça on sera tranquille. Oui, un seul sera sauvé. Parce qu'il y a une déesse qui est plus ou moins tombée amoureuse de lui, donc là encore, on voit que les sentiments sont un peu étonnants. Tandis que Dieu, lorsqu'il se met, quand il veut détruire le monde par le déluge, il s'intéresse à Noé, il voit celui qui, en effet, doit être absolument sauvé. Les raisons ne sont pas les mêmes, c'est parce qu'il est profondément déçu par les hommes, et puis il voit comment ils se comportent. Bon, ça reste encore assez violent. Mais lorsque l'on s'avance dans ce texte, on voit que Dieu protège Noé. La manière dont l'arche est construite est tout à fait essentielle. Et puis c'est lui qui ferme la porte, c'est lui qui va autoriser Noé à sortir. On voit là que Dieu a le souci vraiment tout au long de Noé. Il veut vraiment le protéger, lui, sa famille et les animaux. Et puis peut-être que c'est à la fin que c'est l'apothéose. Parce que comment cela se termine ? Vous l'avez entendu, je l'ai lu. Il y a d'abord une bénédiction sur laquelle je reviendrai. Mais il y a aussi cette alliance perpétuelle que Dieu fait avec les hommes. Il dit « plus jamais ça ». Non, je ne veux plus, il n'y aura plus de déluge. En tout cas, moi je ne causerai plus le déluge. Et je vais faire alliance avec vous. Et comme signe de cette alliance, je pose cet arc. Alors l'arc, c'est en effet celui qui relie le ciel à la terre, c'est un magnifique arc en ciel, et là on a vraiment une belle poésie, une belle image de cet arc en ciel. Mais l'arc, qu'est-ce que c'est ? L'arc, c'était jusque-là l'attribut du dieu guerrier, du dieu qui voulait soumettre, démettre les hommes, les prendre dans ses filets, les en faire n'importe quoi. Eh bien, dit Dieu, dit non. Je ne suis pas un dieu guerrier. Je dépose mes attributs guerriers qui peuvent vous soumettre et vous obliger, eh bien, à être mes esclaves. Non, Les hommes ne sont pas les esclaves de Dieu. Les hommes sont les partenaires de Dieu. Il a déposé son arc, il a déposé ses armes, il a fait confiance à l'humanité et il a dit « plus jamais ça ». Ainsi, à travers cette histoire du déluge qui ressemble tant à d'autres, eh bien en fait, et les auteurs bibliques nous disent tout à fait autre chose, ils nous permettent de découvrir Dieu autrement, un Dieu d'amour que nous prêchons encore aujourd'hui.
Alors c'est vrai que finalement ce qui est beau dans ce texte, c'est la fin. C'est-à-dire Dieu à la fin qui dit « c'est promis, je ne détruirai plus jamais l'humanité ». C'est-à-dire que finalement le texte se termine bien sur l'idée d'un Dieu qui n'est qu'un Dieu de pardon et de grâce. Et d'ailleurs, les historiens disent que probablement ce texte a été écrit lors d'un changement théologique profond, c'est-à-dire en Israël, autrefois, on croyait dans un Dieu qui punit, dans un Dieu qui juge, dans un Dieu qui détruit. Et les nouveaux théologiens, tout à coup, disent « mais non, Dieu c'est un Dieu de tendresse et Dieu n'est jamais la source de mal ni de destruction ». Et donc, pour faire passer la chose auprès du peuple, le seul moyen, c'était d'inventer une histoire mettant en scène Dieu lui-même qui change d'avis. Et donc, il dit comme ça, il pouvait dire aux gens, vous voyez, c'est Dieu lui-même qui a changé d'avis, donc maintenant, convertissez-vous à la nouvelle religion. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit que Dieu change d'avis. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense pas que Dieu change d'avis. Je crois que Dieu, il est, et c'est l'absolu, il est éternel, immuable, donc Dieu ne change pas d'avis, Dieu n'est pas une girouette, c'est pas un Dieu qui tout à coup, par caprice, décide de détruire et par caprice décide de ne plus détruire. Donc il est certain que le fond de l'histoire là-dedans, c'est plutôt que les hommes acceptent de faire ce changement. Et donc c'est les hommes qui changent leur idée sur Dieu. Et là, je me dis qu'il y a une petite leçon pour nous. C'est que pour en arriver à la bonne nouvelle, il faut accepter de changer son image de Dieu, c'est-à-dire accepter de convertir son image sur Dieu. Et ça n'est pas simple, parce que nous avons tous reçu un catéchisme, nous donnant un certain nombre de préceptes. Donc on a nos idées sur Dieu, et souvent ces idées sont des idées fixes. Eh bien moi je dis que si on veut accéder à la bonne nouvelle, il faut avoir le courage d'accepter de changer sa théologie, de changer sa conception de Dieu, de passer d'un Dieu jugeur et exterminateur à un Dieu qui fait alliance, même avec la personne imparfaite. Et il faut avoir le courage de remettre en cause même son catéchisme et même ses vieilles croyances pour repenser un Dieu neuf. Et ça n'est pas simple. Mais à mon avis, c'est absolument essentiel. Et c'est en tout cas ce changement qui permettra d'accéder à l'alliance de Noé, et qui permettra d'accéder à Jésus-Christ, parce que si chacun devait garder la théologie qu'il avait dans son enfance, ou la théologie de ses parents, ou la théologie qu'il avait même il y a un an ou deux ans, on en serait encore à l'âge des cavernes à se taper dessus avec des gourdins. Et donc oui, acceptons de nous remettre en question, de remettre en cause notre théologie, de nous questionner et d'avancer. Et c'est d'ailleurs un peu ce que nous faisons nous à l'Étoile, où nous aimons bien questionner, secouer, provoquer. Et la prédication protestante, elle est comme ça. On n'essaye pas d'inculquer une théologie, mais vraiment de dire questionnez-vous et remettez-vous en cause, parce qu'il y a des horizons extraordinaires qui s'ouvrent devant vous si vous êtes capable de découvrir ces dimensions nouvelles.
J'entends bien tout ce qu'on a dit, mais je ne sais pas, rappelez-vous, si on a commencé aujourd'hui par le texte sur le déluge, c'est parce que nous entamons un cycle de prédication autour des thèmes de l'environnement, du changement climatique. Et pour l'instant, nous n'avons absolument pas parlé de ça. Alors, est-ce que ce texte ne nous parle pas du tout de changement climatique? Même si, eh bien, nous l'avons convoqué en premier, et vous allez dans des colloques chrétiens ou même en dehors du monde chrétien sur les changements climatiques, paf, le déluge arrive tout de suite là. Allez, le déluge. Bon. Eh bien, en fait, il faut toujours faire une lecture plus fine. Et c'est vrai que ce texte nous parle certainement pas du changement climatique, et d'ailleurs c'était probablement pas la préoccupation de ceux qui écrivaient. C'était bien plus la préoccupation, comme on l'a entendu, d'un changement théologique, de changer, de convertir nos propres cœurs pour accueillir un Dieu différent de ce qu'on peut imaginer, ce Dieu d'amour et de tendresse. Mais tout de même, il y a quelque chose à retenir de ce texte pour une réflexion autour, eh bien, de la protection de notre planète, de notre environnement. Il y a quelque chose, parce que je ne sais pas si vous faites attention, si vous êtes habitué de ces premiers livres de la Genèse, mais en réalité, on a dit que Dieu avait changé, ou plutôt que c'était l'homme qui avait changé son regard sur Dieu, mais le monde a changé aussi après le déluge. Il y a un monde avant le déluge et un monde après le déluge. Un monde avant le déluge où Dieu est absolument omniprésent. Et après, petit à petit, ce n'est pas vraiment qu'il se retire, c'est qu'il devient de plus en plus partenaire avec l'homme. Il fait alliance en déposant son arc, et une alliance, ça se fait à deux. Il fait alliance ensuite avec Abraham et sa descendance. On voit un Dieu qui devient partenaire avec l'homme et qui, en quelque sorte, comme il le dit, confie le monde, notre terre, notre planète à l'homme. Il le redit tout à fait à la fin, avec cette bénédiction, lorsqu'il bénit Noé et ses fils, il leur dit « Croissez et multipliez-vous ». Comme au début, dans Genèse 1, il leur dit la même chose, il le dit même deux fois. Mais le ton change tout de suite. Parce qu'au moment de la Genèse, dans le livre de la Genèse, Dieu peut-être a encore quelque espoir dans un homme parfaitement juste, est-il possible ? Et l'homme, symboliquement, n'a le droit, n'a accès qu'à une nourriture végétale. Parce que si l'homme est doux, eh bien la nourriture est végétale. C'est ce monde de douceur où finalement on peut se contenter de manger de l'herbe. Mais Dieu, là, après le déluge, prend acte. Il prend acte que l'homme n'est pas parfait, qu'il y a de la violence dans chaque homme. Et comme exutoire, il va l'autoriser à manger de la viande. C'est pas rien. Je veux dire, ça veut bien dire que, eh bien oui, il y a quelques violences dans l'homme, Dieu le sait, et il dit oui, tu peux manger de la viande, tu as accès à la viande. Mais il met une limite tout de même, une limite en disant, mange la viande, mais pas le sang de la viande. Alors, symboliquement, le sang de la viande, c'est l'être profond et tout, et c'est l'être profond aussi. Il met ainsi une limite, il accepte que l'homme ne soit pas parfait, et il met une limite, mais... Pour en revenir au changement climatique, eh bien, en réalité, aujourd'hui, il y a toujours eu des déluges, je l'ai dit, il y a toujours eu des sécheresses, il y a toujours eu des catastrophes climatiques, des tsunamis, des tremblements de terre. Mais peut-être que le dérèglement est trop grand, que nous pouvons nous sauver d'un déluge, de deux, mais que si tout cela s'accélère, tout cela s'accélère parce que justement nous ne savons pas l'arrêter, parce que Dieu nous a confié un monde auquel nous ne sommes même pas capables d'en prendre soin. Eh bien, si tout cela s'accélère, oui, nous pouvons aller droit à l'autodestruction, un grand Big Bang qui ferait exploser tout, peut-être pas un déluge, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui pour notre planète de toute façon est absolument néfaste. Dieu nous a confié le monde, sachons nous aussi en prendre soin parce qu'il aime ce monde et il nous aime.
Alors oui, c'est vrai, Dieu accepte de faire alliance finalement avec un monde imparfait. Et ce Dieu me plaît beaucoup, c'est-à-dire ce Dieu qui, en fin de compte, à la fin de l'histoire, dit « Je sais que l'homme est mauvais, mais finalement je vais faire avec ». Et j'aime bien ce Dieu-là, parce que c'est-à-dire que c'est un Dieu qui accepte l'homme comme il est, avec son imperfection, qui fait alliance, c'est le mot ancien pour dire « il reste en relation avec », et puis qui accepte l'imperfection et qui ne cherche plus nécessairement la perfection, justement, ou la pureté absolue. Et donc, il y a là un changement radical. Et je crois effectivement que la recherche de la perfection ou la recherche de la pureté n'amène finalement qu'à l'intégrisme, au jugement, à la condamnation et à la mort. Et que par conséquent, la seule voie possible pour l'humanité, pour la vie en général, eh bien, c'est un Dieu qui accepte et qui pardonne, et d'un Dieu qui reste en relation et qui reste en lien. Et je crois que le Dieu de Jésus-Christ, il est comme ça. Le Dieu de Jésus-Christ, il nous pardonne tout. La seule chose qu'il nous demande, c'est de rester en relation avec lui. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et c'est pareil pour notre prochain, de rester en relation avec notre prochain, même quand il n'est pas parfait. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que certes, il y a là un nouveau modèle de Dieu, mais aussi une leçon pour notre vie. Parce que nous aussi, je crois que nous sommes invités à avoir un autre jugement sur le monde, c'est-à-dire d'accepter que le monde ne soit pas parfait. Et nous avons un petit travail sûrement pour ne pas, pour éviter de vouloir que tout soit parfait. Mais dans notre vie, nous sommes invités à faire alliance avec l'homme, avec notre prochain tel qu'il est, même s'il n'est pas parfait. Et ça, c'est vrai avec notre prochain. C'est vrai avec, je dirais, notre conjoint, avec nos parents, nos enfants et tous ceux que, ou nos collègues de travail, je ne sais quoi, même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils nous énervent, eh bien, comme Dieu, nous dirons, eh bien, bah, tant pis, je vais rester en lien et j'accepte l'imperfection de l'autre. C'est un vrai travail à faire, parce que nous aimerions toujours que l'autre soit parfait. Et c'est très difficile d'accepter que l'autre ne soit pas parfait, et de rester en lien avec lui. Et c'est vrai aussi pour notre propre vie, parce que notre vie à nous, elle n'est pas non plus toujours idéale. Et il y a en nous beaucoup d'imperfections. Nous n'avons pas le travail que nous aimerions avoir. Nous n'avons pas forcément fait les études que nous aurions pu souhaiter. Nous n'avons pas la réussite que nous pensons mériter. Et donc notre vie, elle apparaît aussi parfois comme médiocre, comme minable ou pas aimable. Eh bien, ce texte nous dit, acceptez votre propre existence et faites alliance avec elle, comme Dieu fait alliance avec l'humanité. C'est le secret de la vie et de la joie. Et finalement, notre vie, elle est faite comme ça, d'un mélange de bien et de mal. Et c'est vrai que cette image de l'arc-en-ciel, vous voyez, j'en viens à des images quand même plus poétiques, est une chose extraordinaire, parce que l'arc-en-ciel, c'est une des plus belles choses qui soit, et pourtant, elle est faite par un mélange de pluie et de beau temps, c'est-à-dire de bien et de mal, si vous voulez. Et le soleil pur, eh bien, c'est le soleil du désert de Gobi qui brûle tout. Ça, c'est l'intégrisme. Et la volonté de la lumière pure est extrêmement dangereuse. Et donc, Dieu, dans le déluge, justement, évite cela, et il arrive à dire, en fin de compte, que ce mélange de bien et de mal, eh bien, si on arrive à le mélanger d'une façon harmonieuse en l'acceptant tel quel, il peut créer le plus merveilleux des paysages qu'il soit. Et je crois que notre vie peut être vue comme ça, justement, comme un mélange de bien et de mal, il faut arriver à intégrer les deux, et également dans nos relations avec les autres, d'accepter que nos relations ne soient pas toujours parfaites ou idéales, mais même cette imperfection, quand c'est vu avec tendresse, avec amour, avec générosité, peuvent devenir des chances pour créer quelque chose de beau qui est propre à l'humanité, qui est cette espèce de, je dirais, de mélange qui est un état de fait du monde et qui n'est non seulement pas condamnable, mais qui peut même devenir une dynamique finalement et une chance pour créer une sorte de royaume de Dieu en marche, comme le feront tous les descendants de Noé.
L'homme n'est pas parfait, mais nous le savons aussi, notre monde, notre planète n'est pas parfaite. Et en effet, comme je l'ai dit, il y a des tremblements de terre, des tsunamis, des choses finalement on peut même pas reprocher à l'homme que ça arrive, nous n'y sommes pour rien. Alors on pourrait regarder cette terre en disant combien elle est dure, mais on peut aussi contempler la beauté de la terre, contempler l'arc-en-ciel, mais contempler aussi cette montagne que j'aime tant, le mont Ararat, cette montagne magnifique sur laquelle elle fait plus de 5000 mètres, alors il y a toujours de la neige sur le mont Ararat. Et aujourd'hui, on peut s'interroger, est-ce que nous, les humains, sommes capables de garder notre planète avec nos frères, nos sœurs, eh bien, en les accueillant aussi, mais sommes-nous capables de garder notre planète aussi belle qu'elle est? Peut-être en acceptant ses imperfections, mais aussi en nous tournant avec confiance, avec espérance sur toute la beauté de ce monde qui nous entoure. La beauté, y compris des villes, des personnes que nous rencontrons, pas uniquement des paysages, parce que notre planète, elle est habitée. Elle est habitée par des êtres humains qui, comme nous, ont leurs imperfections et leurs magnifique perfection, leur magnifique part bonne qu'il y a dans chacun d'entre nous. Donc sommes-nous capables aujourd'hui de cela pour sauver notre monde ? Je voudrais terminer sur une note d'espérance, parce qu'il y a au cœur de ce texte qui est assez poétique, eh bien, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Au milieu, alors que la pluie cesse et qu'on sent bien Noé dans son bateau, on doit bien sentir qu'il vient d'échouer et que, en fait, il ne pleut plus et que peut-être il va se passer quelque chose, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre une fenêtre et il envoie le corbeau puis la colombe. Ouvrir une fenêtre, la fenêtre, elle a pour nom, en hébreu, le mot « espérance ». Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que je vous assure, si dans nos vies, nous sommes capables d'ouvrir des fenêtres, capables d'espérer, eh bien oui, nous pourrons construire ensemble ce monde meilleur, ce monde que Dieu désire. Amen.
Qu'aujourd'hui toute la terre s'égaye au nom du Seigneur, qu'à Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Qu'aujourd'hui son évangile en tout lieu soit publié, qu'apporter son joug facile, tout pécheur soit convié. Qu'aujourd'hui, au coup d'esclaves de l'erreur et de la mort, soient tirés de leurs entraves par la grâce du Dieu fort.